Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, la retraite à 65 ans, défendue par l'Élysée. Un dîner a eu lieu hier soir autour d'Emmanuel Macron. Qu'en est-il ressorti? Les informations de Jacques Seret. On sera à 12h30 avec l'un des participants à ce dîner, le patron des sénateurs Renaissance, François Patria. Il a choisi Europe Midi pour parler. Et vous, qu'en pensez-vous de la retraite à 65 ans? Est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 65 ans? Vous appelez le 39-21, bien sûr. Pas de coupure d'électricité prévue par RTE pour Noël et pour la Saint-Sylvestre. Margot Faudéré nous dira pourquoi. On ira à Lyon pour le début de la magnifique Fête des Lumières. Un événement chaque année, Jean-Luc Boujon est sur place. La communauté de communes de Fréjus a décidé, écoutez bien, de suspendre les subventions publiques à tout un quartier. Un quartier où des délinquants ont agressé des policiers et commis des dégradations après la victoire du Maroc en Coupe du Monde cette semaine. Le président de la communauté de communes sera avec nous à 12h20. Et puis je voudrais savoir ce que vous en pensez. Faut-il arrêter de verser de l'argent public quand des individus se comportent mal? Vous appelez le 39-21 et vous réagissez. Céline Dion annule une grande partie de sa tournée européenne de l'année prochaine, dont les vieilles charrues, à cause d'une grave maladie neurologique. Elle l'a annoncé dans un message émouvant sur les réseaux sociaux. Vous allez l'entendre. Et puis, on va vous donner les toutes dernières nouvelles avec Marie Jiquel. On va parler du port du masque obligatoire dans les transports. Des associations de malades le réclament. Le professeur Amouyel sera en direct avec nous à 12h50 pour faire un point sur l'épidémie et nous dire donc où on en est. La tendance météo à présent, Anissa Haddadi, avec du changement pour le sud.
Ça y est, on change d'ambiance. Après un début de semaine effectivement assez radieux sur la moitié sud, les nuages arrivent avec une perturbation qui nous vient tout droit du Portugal, qui apporte des nuages, de la pluie et même de la neige en montagne.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Ça avance sur le front de la réforme des retraites. Les grandes lignes du texte porté par le gouvernement seront présentées dans une semaine, le 15 décembre, jeudi prochain, par la Première ministre Elisabeth Borne. Avant cette échéance, place aux dernières concertations avec un dîner de la majorité à l'Élysée hier soir. Bonjour Jacques Seret.
Bonjour.
Jacques, ce sont les partenaires sociaux qui sont reçus à Matignon aujourd'hui après ce dîner d'hier, hein.
Oui, Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, Elisabeth Borne poursuit ses consultations alors que les dés semblent déjà jetés lors d'un dîner hier soir à l'Élysée avec des cadres de la majorité. Emmanuel Macron a confirmé son souhait de reporter l'âge légal de départ à 65 ans. De quoi agacer Laurent Berger après son entretien avec Elisabeth Borne.
Donc on a demandé éclaircissement et évidemment la Première Ministre n'était pas en mesure de nous donner pourquoi on nous invite ce matin et on nous disait que les choses avaient été arbitrées hier. Mais ceci étant dit, nous on s'est battu pendant une heure et quart. Maintenant on va voir ce qui en ressort. Moi la crainte que j'ai, je vous le dis très franchement, c'est une réforme qui serait une mesure d'âge et qui ne tiendrait pas compte de ces deux mois de concertation qu'on a investi nous avec conviction et avec des propositions. On nous a dit qu'il serait tenu compte in fine d'une partie de nos propositions. Évidemment, ils n'ont pas été dévoilés aujourd'hui. On attendra les annonces.
Des annonces qui seront faites par la Première ministre jeudi dans une semaine. En attendant, le sentiment ici des syndicats est que la rentrée du mois de janvier devrait être extrêmement agitée.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1 depuis Matignon, donc, où sont reçus aujourd'hui les partenaires sociaux. Au lendemain de ce dîner à l'Élysée sur le thème des retraites, l'un des participants sera donc avec nous, François Patria, à partir de 12h30. Il est sénateur, il est même le président du groupe Renaissance au Sénat. Et vous, bien sûr, vous appelez, hein, vous nous dites si vous êtes prêt ou pas à travailler jusqu'à 65 ans. Pas de panique, c'est désormais le mot d'ordre du gouvernement face au risque de coupure d'électricité cet hiver. On se souvient du coup de colère d'Emmanuel Macron mardi dernier depuis l'Albanie. Depuis, on tente de rassurer. D'ailleurs, RTE rappelle que le risque de délestage avant la fin de l'année, donc avant la fin du mois, est nul, risque nul. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Qu'est-ce qui permet aux gestionnaires RTE d'être aussi optimiste?
D'abord, c'est la baisse de la consommation constatée depuis un mois et qui s'est accentuée la semaine dernière, moins 8% par rapport à la moyenne des années précédentes. L'industrie consomme moins, on vous l'a expliqué sur Europe 1, et les efforts des ménages commencent à se faire ressentir. Ensuite, ce qui permet à RTE d'être optimiste, ce sont les prévisions de consommation sur le mois de décembre. C'est assez contre-intuitif, mais pendant la période des fêtes, la consommation d'électricité baisse car il y a moins d'activités économiques. Enfin, troisième raison d'être optimiste pour RTE, le calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires. 3 seront reconnectés au réseau d'ici lundi, 2 autres suivront la semaine prochaine. Mais rien n'est garanti. Pour preuve, le signal EcoWatt pourrait passer du vert à l'orange pour la première fois en début de semaine prochaine. Dernier palier avant le fameux signal rouge, synonyme d'un possible délestage.
Margot Faudéré, merci beaucoup Margot. Il y a un risque, on passe à l'orange lundi. Hein.
Oui, RTE l'annoncera si ça se passe demain midi.
Merci beaucoup Margot. Des risques de coupures dus aux difficultés d'approvisionnement en énergie, une pénurie qui fait exploser les prix de l'électricité notamment. Pour aider les PME à payer leurs factures, le gouvernement a mis en place un guichet spécial. Il devait disparaître à la fin de l'année, mais Bruno Le Maire, le patron de Bercy, le ministre de l'économie, annonce finalement qu'il sera prolongé après le 1er janvier prochain. Les professionnels comme les particuliers diminuent leur consommation d'énergie, on vient de le voir, pour éviter les délestages, mais aussi pour éviter de payer trop cher, bien sûr. Comment faire preuve de sobriété énergétique quand on met en place des dizaines d'illuminations en plein centre de Lyon? C'est le défi auquel sont confrontés les organisateurs de la Fête des Lumières. Elle démarre ce soir, c'est toujours un événement, c'est magnifique. On retrouve Jean-Luc Boujon avec nous. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
En direct de Lyon, bien sûr. Contrairement à ce que l'on peut croire, Jean-Luc, cette mythique Fête des Lumières ne consomme pas tant d'énergie que cela, hein?
Eh ben non, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou craindre, hein, la surconsommation électrique pour ces 4 soirées est très limitée. Pourtant, il y a plus de 30 illuminations ou spectacles lumineux un peu partout en ville. Place Bellecour, dans le Vieux Lyon, Parc de la Tête d'Or. Parfois, ces créations sont même assez gigantesques, hein, pour être vues du plus grand nombre. Malgré tout, grâce aux technologies modernes, la consommation électrique est faible, assure le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, pour qui, évidemment, cette préoccupation est essentielle.
L'essentiel des technologies qui sont utilisées, c'est les LED. Donc la facture énergétique, elle est extrêmement limitée. On l'évalue à 3 500 €, hein, global, hein, la consommation énergétique de la Fête des Lumières. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose.
Et en plus, cette consommation électrique extérieure sera compensée, explique Audrey Enoch, chargée des finances à la ville de Lyon.
Les œuvres lumière, déjà elles sont éclairées pendant 4 heures seulement, 4 soirs. Et pendant qu'on les illumine, on éteint les mises en lumière habituelles des bâtiments historiques qui sont plus énergivores. Et puis on peut aussi rajouter que pendant que les Lyonnais et les Lyonnaises viennent profiter de la Fête des Lumières, ils ne consomment pas chez eux en laissant tourner la télévision et les lumières.
Voilà, donc aucune mauvaise conscience à avoir. Hein. Tout le monde, les Lyonnais et les touristes qui vont venir ici jusqu'à dimanche soir, tout le monde peut profiter de cette très belle fête sans crainte de faire exploser le compteur électrique.
Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà, plus de 2,5 millions de visiteurs sont attendus Jean-Luc, hein, à Lyon.
Exactement, voilà. 2,5 millions, ça fait à peu près 600 000 par soir.
Ah oui, formidable, formidable. C'est magnifique les Fêtes des Lumières. Allez-y si vous n'y êtes jamais allé, même si vous y êtes déjà allé, vous pouvez y retourner. C'est magnifique évidemment. Et les Lyonnais d'ailleurs mettent qu'ils habitent à Lyon ou qu'ils habitent ailleurs, à Paris, à Marseille, à Lille, où vous voulez, mettent pendant la Fête des Lumières une petite bougie sur le rebord de la fenêtre, voilà, pour participer où ils sont à cette fête. Merci beaucoup Jean-Luc. Gérald Darmanin s'oppose une nouvelle fois à un prédicateur religieux. Le ministre de l'Intérieur a prononcé une interdiction administrative de territoire à l'encontre d'Al-Mohammedi. Ce cheikh yéménite d'inspiration salafiste devait prendre part à plusieurs conférence à la mosquée de Chili Mazarin en région parisienne ce week-end. Il ne sera pas en France, il ne pourra pas rentrer sur le sol français. William Molinier avec nous du service police-justice d'Europe 1. Ce sont les propos de cet homme tenus dans ses prêches qui ont poussé le ministre à prendre cette décision rarissime. Hein.
Oui, les services de sécurité intérieure l'avaient dans le viseur. Il surveillait ses comptes sur les réseaux sociaux et sa chaîne YouTube où il tenait en 2020 ce type de propos.
Ces chrétiens polythéistes qui mangent l'illicite, boivent de l'alcool avec leurs femmes dénudées. Pour pouvoir respecter les préceptes du Coran, il ne faut rien partager avec eux. Je conseille mes frères de sortir de ces endroits pour émigrer dans les pays musulmans.
Des discours qualifiés de contraires aux valeurs républicaines dans une note du ministère de l'Intérieur que nous avons pu consulter. Le prédicateur salafiste qualifie les juifs et les chrétiens de corrupteurs. Au sujet des femmes, il considère qu'un homme doit fermer les yeux s'il croise une femme. Et selon cette note, le cheikh, connu pour tenir la ligne dure du salafisme, estime que le recours au châtiment corporel est légitime, comme celui de couper les mains des voleurs. Gérald Darmanin a donc prononcé une interdiction administrative de territoire pour empêcher sa venue à la grande mosquée de Chili Mazarin, où il devait tenir une conférence à partir de demain jusqu'à dimanche. La ville de Chili Mazarin qui a d'ailleurs, elle aussi, interdit la tenue de cette conférence.
Merci William Molinier. Le retour du masque dans les transports, on en parle de plus en plus étant donné les chiffres de contamination au Covid. Environ 50 000 cas détectés par jour. La situation n'est plus tenable. Ce sont les mots de 12 associations de malades qui réclament dans une tribune parue dans le Parisien, qui réclament le port du masque obligatoire dans les espaces de grande promiscuité, en clair, dans les transports en commun. Cette demande sera peut-être entendue par le ministre de la Santé, François Braun, qui tiendra une conférence de presse demain. Et on va en parler à 12h50, aux alentours de 12h50, avec le professeur Amouyel. Il est midi 10, restez bien avec nous. Dans un instant, Céline Dion, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer l'annulation d'une grande partie de sa tournée européenne de l'année prochaine, dont ses concerts, son passage aux Vieilles Charrues. A tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
J'irai, tu iras. Mon pays sera toi. J'irai, tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Sa voix est l'une des plus connues au monde, est l'une des plus belles au monde. Céline Dion a pris la parole il y a quelques heures maintenant sur les réseaux sociaux. Elle est obligée d'annuler plusieurs dates de concerts prévues en Europe et notamment en France l'année prochaine. On en parle avec vos toutes dernières informations, Marie Jiquel. Mais tout d'abord, je voulais qu'on écoute, évidemment, un extrait du message de Céline Dion publié ce matin sur les réseaux sociaux.
Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais « stiff person syndrome », qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
Voilà, Céline Dion, c'est très émouvant, c'est dur. Elle est extrêmement triste, elle le dit. Elle n'a même pas besoin de le dire d'ailleurs. Marie Jiquel, bonjour Marie.
Oui, bonjour Romain, on la sent très émue dans cette vidéo diffusée sur son compte Instagram. Il y a un peu plus d'une heure et déjà likée des dizaines de milliers de fois. Une tournée Courage encore bouleversée. On savait que l'état de santé de Céline Dion était fragile puisqu'elle avait déjà reporté des concerts en avril dernier. Et là, nous avons enfin un nom sur ses problèmes physiques, le stiff person syndrome qui provoque donc une rigidité musculaire. C'est donc larme aux yeux que Céline Dion annonce l'annulation de 8 spectacles prévus cet été, dont celui des Vieilles Charrues. Écoutez le directeur du festival, Jérôme Tréhorel.
Forcément, c'est la déception et on lui souhaite un prompt rétablissement. Malheureusement, c'est une annulation pure et simple et pas un report comme on a connu les dernières fois. C'est forcément rageant pour nous, organisateurs. C'est rageant également pour les festivaliers qui, pour la grande majorité, depuis 2019, ont conservé leurs billets pour le concert de Céline Dion.
Donc 55 000 billets à rembourser donc pour les Vieilles Charrues. Certaines dates de concert prévues en 2023 sont reportées en 2024, et pour l'instant, ces 6 concerts à la Défense Arena à Paris en septembre prochain sont maintenus, Romain.
Merci beaucoup, Marie Jiquel. Voilà. Et donc, Céline Dion qui annule une partie de sa tournée à cause de problèmes de santé, d'un trouble neurologique grave. Merci beaucoup, Marie Jiquel. Dans moins d'une semaine, sur les écrans du monde entier, Avatar fait son grand retour. Le premier volet fut l'un des plus grands succès en box-office avec près de 3 milliards de dollars de recettes. Hein, 3 milliards de dollars de recettes pour le premier Avatar. Après la jungle luxuriante, place au fond marin. Dans cette nouvelle épopée, Avatar 2, la voix de l'eau, James Cameron, est toujours aux commandes de cette seconde folle aventure aux effets spéciaux fous. Écoutez.
« Le grand défi fut de recréer l'eau et son mouvement. On devait comprendre les mouvements des gens dans l'eau pour ensuite les créer sur ordinateur. Quand vous voyez tous ces personnages surfer, sauter, plonger dans l'eau ou s'éclabousser, tout ça est généré par ordinateur. Et le niveau est incroyable, un niveau impossible à atteindre il y a 10 ans.
Voilà James Cameron qui signe Avatar 2 au cinéma en France mercredi prochain, avec notamment Sigourney Weaver ou encore Kate Winslet. Les quarts de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar débutent demain. Ce sera bien sûr à suivre sur Europe 1, radio officielle du Mondial. Le match des Bleus contre l'Angleterre, ce sera samedi à 20h. Et on va parler d'un joueur qui n'était pas titulaire indiscutable en équipe de France avant le tournoi. Malgré les blessures de ses coéquipiers, ça l'a propulsé sur le devant de la scène. Il s'est propulsé lui-même. Il s'agit de Dayo Upamecano, le défenseur du Bayern Munich. La consultante d'Europe 1 et internationale française Wendy Renard salue sa combativité.
Je n'ai pas gagné au départ et je me rappelle d'Upamecano. C'est vrai que ses premiers matchs, il y avait forcément de la timidité. Et on arrive forcément dans un groupe qui est champion du monde, donc il faut trouver sa place. Donc des matchs forcément où on est un peu entre les deux. Et au fur et à mesure, il a pris confiance. Et moi, je trouve depuis le début de cette compétition, il est là, il est présent dans la relance, il est présent dans les duels. C'est très bien pour lui, je suis contente parce que c'est jamais évident. Malgré le jeune âge, c'est vrai que dès qu'on fait un match un peu pas bon, on est forcément critiqué, chose qui est logique. Mais on peut perdre aussi confiance en soi, en ses qualités. Et là, il est petit à petit, il s'impose. Et pour moi, c'est l'un des leaders de la défense avec Raphaël Varane.
Voilà, l'analyse de Wendy Renard à retrouver tous les jours dans Europe Midi. La bourse tout de suite. La bourse avec Didier Hamaud de boursier.com. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Alors, quelle est la tendance à Paris aujourd'hui ?
Oh, ça continue, cinquième séance de baisse consécutive. Le CAC 40 perd 0,15%, une petite baisse. 6650 points dans un marché très calme. Le CAC 40 continue de digérer son rebond des deux derniers mois de près de 20% quand même. Le pétrole aussi poursuit son repli en raison des craintes de récession mondiale. Avec un baril à 77$, le baril de pétrole est au plus bas de l'année. Ailleurs, ça baisse un petit peu partout, de petites baisses. Francfort, moins 0,3, Madrid, moins 0,8, Bruxelles, moins 0,7 et le CAC 40 en baisse donc de 0,15%, 6650 points.
Didier Hamaud de boursier.com. Voilà, et on espère vous retrouver dans le studio demain pour un nouveau point bourse. Merci Didier. La météo à présent, Anissa Haddadi, les nuages sont de plus en plus présents, hein.
Oui, alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, les nuages avaient envahi principalement la moitié nord. Eh bien, aujourd'hui, c'est dans le sud. On vient de passer une matinée très nuageuse sur les Pyrénées et le pourtour méditerranéen. Cet après-midi, ce sont les pluies qui arrivent sur le sud-ouest, le Limousin, le pourtour méditerranéen, le Languedoc, le Roussillon, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse. Il neige également en montagne, hein, 1200 mètres pour les Alpes, 1800 mètres pour les Pyrénées. Au nord de la Loire, le temps reste sec mais brumeux, avec toujours ce ciel gris et pesant au-dessus de nos têtes. Le long des côtes de la Manche, c'est assez humide également avec des petites averses. Côté température, vous l'avez senti ce matin, on avait beaucoup de gelée. Cet après-midi, ça baisse encore 1 degré à Langres seulement, 4 à Clermont-Ferrand, 5 à Paris, Lorient et Lille, 10 degrés à Nîmes, 15 à Toulon et 17 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 19, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la communauté de communes de Fréjus qui a décidé de suspendre le versement de subventions publiques à un quartier où il y a eu des violences. On sera avec le président de cette communauté de communes et avec vous, bien sûr, au 3921. À tout de suite.